Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mboujimayi au Katanga oriental. Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre ce nouveau numéro des paroles aux auditeurs. L'Assemblée mondiale de la santé a décrété la date du 17 septembre, journée mondiale de la sécurité des patients. À marge de cette journée, le mardi dernier, l'Association de défense des droits des patients a lancé la campagne dénommée « Agissons pour la sécurité des patients ». Selon plusieurs rapports, 2 600 000 personnes décèdent chaque année au monde à la suite des risques liés aux soins de santé, notamment le mauvais diagnostic et autres complications médicamenteuses. Comment assurer la sécurité des patients dans votre milieu? C'est la question au centre de notre échange dans ce magazine réalisé par Nico Kalambay et J.R. Lungembo. Polydor Basunga est à la mise en onde et Pierrot et la Meji. C'est pour moi un réel plaisir de vous les présenter sous la supervision de Martin Sebujango, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Et pour parler de cette question de la sécurité des patients, nous recevons dans ces studios Maître Elodie Mouzigirioa. Maître, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes présidente de l'Association de défense des droits des patients. Pourquoi parler de la sécurité des patients?
Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Bonjour à tous les auditeurs. Pourquoi parler de la sécurité des patients? Vous l'avez dit, vous l'avez annoncé. Chaque année, 2 600 000 personnes décèdent suite aux soins de santé à risque. Et chaque année également, 1 million de personnes décèdent suite aux interventions chirurgicales ou immédiatement après les opérations chirurgicales. Et ces chiffres sont au niveau mondial et 85% de ces chiffres-là, près de 90%, concernent les pays en voie de développement, comme les nôtres. Et donc voilà, le 17 septembre, cette journée a été célébrée, d'abord consacrée lors de l'Assemblée mondiale de la santé en mai 2019. Et puis célébrer pour la toute première fois le 17 septembre pour mettre la sécurité des patients au centre de tout débat, de toute politique, de toute action sanitaire. Et c'est dans cet objectif-là que l'Association pour la défense des droits des patients a lancé la campagne « Agissons pour la sécurité des patients » parce que la situation en République démocratique du Congo, étant donné, comme vous le savez, notre système de santé avec toutes ses limites, toutes ses faiblesses, la situation est catastrophique et mérite qu'elle soit mise sur la table, que la sécurité des patients soit mise au centre de toute politique, au centre de tout débat, pour que tous les acteurs, tant nationaux qu'internationaux, du secteur de la santé puissent en débattre et chercher des solutions.
Et quand on parle de la sécurité des patients, on peut dire que c'est une question assez transversale dans le domaine médical. Il n'y a pas seulement la question des opérations. Et est-ce que votre campagne s'adresse aussi à la question de circulation des médicaments?
Exactement. Vous savez, parmi les chiffres que nous avons évoqués là, d'après toujours les rapports de l'Organisation mondiale de la santé, la grande partie ou la majorité de ces décès sont dus, premièrement, au mauvais diagnostic, deuxièmement, aux complications médicamenteuses. Et c'est là que ça rencontre le volet de votre question, le volet médicament. Et quand on parle du volet médicament, on parle de la fabrication, la mise sur le marché, la vente, on parle de tout ce que même la prescription. Et donc, nous, dans le cadre de cette campagne, nous avons axé nos interventions ou notre plaidoyer sur la cause majeure ou les causes majeures de ces soins de santé liés au risque, les soins de santé à risque. Et premièrement, c'est le mauvais diagnostic. Et deuxièmement, les complications médicamenteuses.
Et aujourd'hui, est-ce que depuis que vous avez commencé, je me rappelle, on a déjà même eu notre émission, pensez-vous aujourd'hui votre message sur la question de ce que les patients arrivent vraiment au niveau des prestataires ou bien au niveau du pouvoir public?
Oui, nous pouvons le dire. Modestement, nous pouvons reconnaître que du moment où on a commencé jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup d'avancées parce que on a eu des pourparlers avec le ministère de la Santé, avec certains partenaires techniques et financiers du secteur de la santé. Et petit à petit, parce que comme vous le savez, le domaine est vaste et global, et qui ça demande une certaine maîtrise des questions. Et nous avons pris le temps pour nous professionnaliser, pour essayer de nous professionnaliser dans cette lutte. Nous avons réussi à détecter les problèmes pour ce qui concerne notre pays. Parce que quand on parle de mauvais diagnostic, quand on parle de mauvais médicaments, il y a une base. On ne peut pas attaquer le problème, on ne peut pas s'attaquer aux conséquences. Parce que lorsque nous avons commencé notre lutte, la première motivation, l'engagement porté sur les dénonciations, les cas d'abus qui s'est passé dans des hôpitaux, les malades qui étaient abandonnés parce qu'ils n'ont pas d'argent, les mauvais diagnostics, les malades qui mouraient parce que tout simplement le médecin a fait un mauvais diagnostic, l'a négligé parce qu'il n'a pas d'argent. Et on lui a donné un mauvais médicament, on lui a donné un produit où on lui a fait une prescription sur base des résultats d'un autre malade. Et donc, il y a eu beaucoup de choses. Et on s'est dit, on ne va pas s'arrêter là. Il faut, le problème est plutôt structurel. Il faut s'attaquer aux causes. Et on a cherché les causes. On est en train de trouver les causes. Aujourd'hui, quelle est la situation sanitaire dans notre pays? Quel est l'état de nos hôpitaux? Quel est l'état quel est le budget affecté au secteur de la santé? Il y a beaucoup de causes. Parmi ces causes-là, nous avons détecté celles sur lesquelles l'État peut agir sans des milliards, ou des millions. Parce qu'on nous a toujours opposé le fait des ressources limitées, de l'insuffisance des ressources. Oubliant que l'insuffisance des ressources ne peut être évoquée que lorsque l'État a fait tout son maximum ou a affecté le maximum de ressources pour s'acquitter des obligations minimales ou fondamentales en ce qui concerne les plus démunis. Et donc, lorsqu'on a fait cette étude-là, on a compris les problèmes. Et le vrai problème, c'est lequel? Lorsque vous regardez notre système de santé avec toutes ses faiblesses, vous regardez nos hôpitaux, vous regardez comment les gens meurent, comment on nous vend des faux médicaments. Vous savez, l'État a, au lieu de résoudre ces problèmes-là, certaines de nos autorités qui sont censées prendre des décisions ont choisi de commencer à aller se faire soigner à l'extérieur du pays. Ça, c'est le premier problème que nous avons détecté. Et donc, nos autorités ne vont pas dans nos structures sanitaires et ne vont pas dans nos hôpitaux parce que il y a cette crise de confiance. Ils ne font pas confiance à nos hôpitaux qu'ils appellent des mouroirs et ils vont en Belgique, aux États-Unis, en Afrique du Sud avec leur famille et aux soins de l'État, aux frais plutôt du trésor. Ça, c'est un problème et ce n'est pas normal, c'est inacceptable et il appartient à la population, aux citoyens, de leur dire que c'est anormal. Deuxième chose, toujours dans ce cadre-là, nous avons dit les médecins qui font ça, d'où ils viennent? Comment sont nos facultés de médecine? Vous savez, Monsieur Pierrot, chers auditeurs, la République démocratique du Congo, de 2008 à 2019 aujourd'hui, a produit plus de médecins qu'il n'en a produit depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Au moment où nous parlons, nous avons près d'une centaine des facultés de médecine, à peu près 112 à travers le pays. Posez la question, combien répondent aux normes? Combien de ces facultés répondent aux normes? Lorsque vous allez au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, vous avez les conditions pour ouvrir une faculté de médecine. Mm-hmm. Lorsque vous allez, il y a le vade-mecum pour les institutions supérieures, le fonctionnement des institutions supérieures. Pour ce qui concerne la santé, les doyens de toutes les facultés de médecine se sont réunis et ils ont donné les recommandations pour observer les standards minimums. Mm-hmm. Vous savez, dans ces centaines-là, des facultés de médecine, il n'y a pas 5. À peine, ou à peu près 4 à 5 sont dans les normes. Ça veut dire quoi? Avoir une faculté de médecine, des professeurs attitrés, des laboratoires, un centre hospitalier de niveau tertiaire, ça veut dire de troisième niveau, un centre hospitalier où ces médecins vont faire le stage. Donc, ce qu'on appelle cliniques universitaires. Tout ça, on a des facultés de médecine, une centaine, parce que vous comprenez que sur 112, c'est à peu près 5 seulement, remplissent toutes les normes. Et c'est là où nos médecins que nous avons aujourd'hui, à quelques exceptions près, nous proviennent. Donc, proviennent de ces facultés de médecine. C'est qu'on ne peut pas s'étonner qu'on ait des médecins qui, au lieu de faire une intervention chirurgicale comme il faut, perfore les intestins, oublie les bistouris, prescrivent des médicaments parce qu'ils ont fait un mauvais diagnostic. On ne peut pas s'étonner.
Mais maître Elodie, je crois que...
Ça, c'est un aspect.
Voilà. Oui.
Pour ce qui concerne les ressources humaines, les médecins.
Ok. Ouais. Mais quand on va plus loin, la question, elle est aussi dans la politique fondamentale définie par le pouvoir public. Quelle est la politique aujourd'hui que la RDC a définie en termes de santé? C'est ça le véritable problème aujourd'hui.
Oui. Je ne suis pas naïve. Et j'invite tous les auditeurs à ne pas l'être. Les politiques dans ce pays, on en a vu autant. Si vous regardez au ministère de plan, dans chaque ministère, il y a des belles politiques, des très bonnes, des bonnes stratégies qu'on vous présente. Mais que en termes de réalisation, en termes du concret, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi quel est l'avantage ou l'intérêt que la femme qui meurt à Kasumbalesa ou à Kabaré, à Kenge, a à voir ou à connaître qu'il y a une politique tant que elle, dans son village, elle ne peut pas avoir accès aux soins.
Mais c'est parce qu'il y a...
Elle ne peut pas.
Exactement, c'est la conséquence du déficit.
C'est des politiques pour des raisons politiciennes, pour juste la consommation. Ce n'est pas que c'est des politiques, parce que dans le cadre de notre du secteur de la santé, nous avons le plan national de développement sanitaire qui a été revu plusieurs fois. Il y avait celui de 2016 à 2020, il a été revu de 2018 à 2022 ou 23, si je ne m'abuse. Et là, les soins de santé de qualité, c'est parmi les grandes lignes. D'ailleurs, la couverture sanitaire universelle, c'est l'objectif même de ces plans de développement sanitaire. Mais dites-moi, concrètement, qu'est-ce qu'on voit?
Voilà,
concrètement, les gens continuent à mourir parce qu'ils n'ont pas accès aux soins de santé de qualité. Concrètement, on a des hôpitaux qui n'ont pas d'autorisation, des structures médicales qui exercent sans autorisation. Concrètement, on a, dans la ville de Kinshasa, 5000 pharmacies, boutiques de médicaments qui exercent sans
documents, sans être
non, commun. En dehors des normes, ils ont les documents. Ils ont des documents qu'ils ont à la commune.
Et puis même, malheureusement, ça ne répond pas.
Ça ne répond pas aux normes. Donc, c'est ça le concret qu'on vit. On n'a que faire des politiques vides. On n'a que faire des stratégies qui s'arrêtent dans des beaux bureaux, dans les tiroirs, où la voilà. population ne voit rien du concret.
Et ce qui est important, et là vous avez ajouté un élément important, au-delà de tout ça, nos autorités préfèrent aller se faire soigner à l'extérieur. Ça veut dire que la sécurité des patients, ça devait être d'ailleurs une question urgente parce que c'est nous tous, c'est moi, c'est vous, c'est tout celui qui nous écoute en ce moment qui est concerné, y compris le médecin, l'infirmier lui-même, il a aussi besoin de cette sécurité.
Exactement, et les bons prestataires de soins. C'est indigne de comportement de leurs collègues qui ne font pas très bien leur travail.
Voilà. Ouais. On va écouter les auditeurs. Vous êtes nombreux à vouloir commenter ces sujets. Justin, vous êtes à Fongourmé. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour, Justin.
Bonjour, mon ami Pierrot et Lamenji. Et je dis bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi qui nous suivent en ce net moment.
On vous écoute.
Et dis bonjour à notre invité qui est au studio à ce moment ici. Je sais un peu de raisonner dans ce sens sur les deux points. Il y a les traitements thérapeutiques modernes et les traitements thérapeutiques, je ne sais pas, traditionnels, comme on les appelle, les traitements américaines ou soit chinoises, africaines. Premièrement, je débute d'abord par les traitements modernes. Il n'y a pas les docteurs qui nous manquent ici en République démocratique du Congo. Si, par exemple, on peut citer même quelques docteurs qui font et qui vont ailleurs faire des opérations, ils sont nommés et surnommés là-bas, que non, ce sont des bons. Mais arrivés sur terrain ici au Congo, ils n'arrivent pas à faire un bon travail. Peut-être c'est par manque d'outils, et c'est peut-être encore c'est par manque d'argent que doit détenir un patient. Parce que quand un patient arrive à l'hôpital, on commence à les soigner, il n'a pas beaucoup d'argent, il arrive à un moment donné, il y a une calamité d'acheter les soins, et les docteurs l'abandonnent carrément, et l'homme trouve la mort. Là aussi, c'est un problème de conscience. Ils ont prêté le serment d'Hippocrate, il va d'abord sauver les âmes, et après, il va gagner maintenant après. C'est un point. Le deuxième point, il y a une prolifération de traitements motradis praticiens. Vous savez, quelqu'un qui ne sait pas le fonctionnement des organes d'un individu, il va se dire que moi je traite l'appendicite sur les radios, sur les chaînes de radio. Il passe même des publications, il traite la diabète, toutes les maladies terriblement incurables. Mais elle se prononce. Et quelqu'un qui ne sait pas ce fonctionnement de ses organes, il va se livrer dans les mains de quelqu'un qui ne connaît aussi rien, pour passer le temps inutilement et consommer tout son argent. Et quand il va découvrir que non, ce monsieur ne peut pas arriver à me guérir, il va maintenant se livrer au traitement moderne trop tard, et ce dernier manque comment sauver le patient. Alors, tous ces gens aussi qui passent les communiqués sur les radios sont autorisés par l'État. Monter des yeux pour la vérification de l'efficacité de leurs produits. Mais si vous le voyez bien, ils sont notifiés toujours par les mêmes l'État, ils les ordonnent, ils ont même donné des documents pour tuer inutilement les gens qui ne savent rien. Puisque moi, peut-être que j'ai fait la pédagogie, et tel a fait je ne sais pas quoi que ce soit, il ne peut pas connaître comment même son organe fonctionne. Il y a certains qui disent que non, j'ai des douleurs du cœur, l'estomac. Mais vous voyez qu'ils vous disent qu'il est en train de dire qu'il a des maux de l'estomac, mais il touche sur sa poitrine. Donc c'est supposé qu'il ne connaît pas l'emplacement des organes dans son corps.
Et ça, c'est important. Justin, ce que vous avez dit, c'est important. Il y a d'abord la question de ce qu'il faut faire pour la médecine moderne, la question de traduit praticien, c'est aussi beaucoup de gens sont assez insécurisés, et là vous avez quand même évoqué le rôle de médias, parce que tous ces traduits praticiens passent à longueur de journée sur des médias pour faire la publicité de leurs médicaments, de leurs produits. Comment tout ça doit-il être encadré? Merci beaucoup, Justin Dieudonné. Vous êtes à Mahagui, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à la dame, l'invité qui est au plateau, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
On vous écoute.
Merci beaucoup pour cette opportunité. Et je salue à passant surtout la pertinence et pourquoi pas aussi la manière d'explication de notre invité qui m'a d'ailleurs déjà convaincu. En fait, moi je vais essayer un peu d'être bref, à part par qui est prôné par la constitution de notre pays. La vie d'un homme, elle est sacrée, et nous sommes tous appelés à secourir là où nous pouvons secourir. Aujourd'hui, nous parlons de la sécurité médicale, mais je vais dire, je vais commencer par les corps soignants, les médecins en question. Aujourd'hui, nous sommes un peu estomaqués de constater que bon nombre de ceux qui ont prêté serment de sauver la vie n'arrivent pas à prendre la responsabilité dont ils ont un jour pris devant tout le monde, soi-disant, ils vont d'abord secourir la vie, ils esquivent tout pendant les mois ou même sans mois. Quand je parle de cette slogan, je sais qu'aujourd'hui, même chez nous à Mahagui, là où nous sommes actuellement, ça fait mal à constater que nos jeunes mamans, nos frères sont en train de mourir parce qu'elle n'a pas été soignée, parce qu'elle n'a pas de moyens, parce qu'elle a été mal diagnostiquée par les bons soignants. Je commence par ce qui s'est passé. Moi, si vous parlez, en moins de 2 semaines, il y a un de mon oncle qui était malade. On l'achemine à l'hôpital et à l'hôpital, le médecin dit non, mais il a un problème, une complication interne, il fallait qu'on puisse l'opérer. Et malheureusement, on demande au médecin pourquoi vous l'avez opéré. Le médecin dit non, en l'opérant, on n'a rien trouvé. Bon, la situation se complique comme ça et on ne sait pas. Et jusqu'à ce qu'il s'est reposé, c'est à son âme. Mais pourquoi on ne peut pas aujourd'hui, même si on en a moins de fonds ou bien on est mal payé, avoir des experts qui peuvent sauver la vie? Ça, c'est la première solution. Et cette solution ne peut parvenir que quand l'État lui-même s'est impliqué. Parce que nous avons un pouvoir aujourd'hui qui prend les changements, que ce pouvoir commence d'abord par l'identification et aussi mettre à l'aise nos métiers qui sont là, qui se donnent, mais aussi bouter dehors ceux qui ont eu des papiers non fondés. Parce qu'aujourd'hui, on a des universités, on a des instituts supérieurs médicaux qui n'ont même pas des cliniques universitaires. Ils sont seulement là avec 2 ou 3 salles. Et puis, ils forment des corps soignants, ils forment des gens qui se donnent même le luxe de soigner la population là où...
Ça dit qu'ici, j'ai donné, je comprends qu'on vous pose le problème, il y a d'abord la responsabilité du pouvoir public en ce qui concerne la réglementation, mais il y a aussi la responsabilité personnelle du corps soignant. Cela veut dire que l'engagement que le médecin a pris, que l'infirmier a pris, il y a aussi sa responsabilité qui est engagée, c'est-à-dire qu'il y a sa conscience qui doit travailler quand il est en face de malades. Pour vous, ça dit qu'il y a l'État qui doit d'abord prendre ses responsabilités sur la réglementation, le contrôle de qualité. Et puis il y a aussi ce message que vous adressez aux médecins, ceux qui ont prêté serment, dans sa responsabilité personnelle, de quelle manière il est en train de rendre service, et ça c'est très important. On va écouter Eric qui est à Lubumbashi, on revient dans ce studio avec notre invité. Eric, bonjour, vous êtes à Likasi plutôt, Eric, bonjour.
Bonjour, la radio Capi, moi j'interviens dans quelques minutes que les médecins quand même, ils oublient leur ligne de conduite. Ils sont d'abord assignés, ils avaient prêté serment. J'ai assisté à un cas que lorsqu'on amène un cas à l'hôpital, sans qu'il faut d'abord qu'il y ait des examens à subir, et maintenant déjà on dit que c'est la malaria. Et là-bas déjà, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la transfusion et en même temps c'est la perfusion. Donc que les médecins ils contribuent grandement au décès, parce que j'ai suivi les calculs et les taux de mortalité, vraiment, c'est vraiment alarmant. Donc, nous demandons que les infirmiers qu'ils soient recyclés pour qu'ils prennent leurs mesures et que leurs lignes de conduite auxquelles ils avaient vraiment prêté serment. Voilà maintenant ma contribution.
Merci beaucoup. Ça dit qu'il faut le recyclage, il faut une remise à niveau régulièrement, que ce soit pour les infirmiers ou pour le médecin. 081 890 49 69. C'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ce magazine. Vous pouvez aussi déposer votre commentaire sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs.
Paroles aux Auditeurs. Paroles aux Auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Nous revenons dans ce studio avec notre invité, Maître Elodie Mouzigiriwa. Vous êtes présidente de l'Association de défense des droits des patients. Vous avez suivi nos auditeurs. Cela veut dire que le travail de la sécurité des patients, c'est d'abord les prestataires. Il y a l'État, il y a les prestataires. Alors comment, dans cette campagne pour la sécurité de malades, comment vous l'amenez sur terrain?
Merci beaucoup, Pierrot. Merci aux auditeurs qui ont appelé, qui sont intervenus. Vous savez, vous avez parlé de l'État, des prestataires. Il y a les patients qui sont les acteurs principaux, mm-hmm. parce qu'ils ont un rôle actif à jouer. Et j'aimerais, pour ramasser d'ailleurs ce que les différents intervenants ont évoqué ici, dire que l'émission Parole aux auditeurs, c'est pour les auditeurs. Ici, l'État, peut-être qu'ils ne vont pas nous suivre. Et pour ceux qui nous suivent, je parle de l'État ou des autorités, ils doivent comprendre que les citoyens congolais, les populations sont fatiguées de leur façon de gérer la chose, de gérer la nation. Il y a tellement de choses qui se passent, qui sont anormales, mais eux, ils continuent à faire comme si c'est normal et que nous pouvons continuer à vivre comme si nous étions dans un terrain où il y a que certains qui ont des droits et d'autres n'en ont pas. Je veux dire ceci. Vous savez, ça va vous choquer peut-être, parce que quand vous dites non, je m'adresse à l'État, il faut que les citoyens comprennent que leur rôle et que leur responsabilité, leur devoir est important dans les processus des soins de santé de qualité. Parce mm-hmm. qu'on l'a dit ici, les autorités là de qui on attend des mesures efficaces, elles vont se faire soigner en dehors du pays. Ils vont en Europe, aux États-Unis, en Afrique du Sud. Il faut que nous exigeons la qualité, la meilleure des soins de santé. Il faut que nous exigeons la sécurité. Ça s'est passé pour illustrer cela. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Un évadé de la prison de Makala quitte la prison. Il va à Ngaliema, dans le quartier Pigeon. Il n'a jamais été médecin. Il n'a jamais été infirmier. Il était assistant dans une clinique de la place. Il ouvre une clinique médicale où il met tous les services. Gynécologie, médecine interne, chirurgie, pédiatrie, médecin disponible 24 heures sur 24. Il l'écrit en grand et il met son numéro là-bas. Avec un numéro d'ordre qu'il a eu, on ne sait où. On ne sait pas où. Vous savez que Il a soigné des gens pendant 2 mois, jusqu'au jour où il a opéré quelqu'un d'une hernie et qu'il en est mort. Il a fui et c'est au moment où on commence à le rechercher que les gens disent « Mais ce type-là, il n'a jamais été médecin. Il était incarcéré à la prison de Makala et il s'est évadé lors des évasions des troubles des moines d'enseignement. »
Oui.
Et lui, ce qu'il a trouvé à faire comme business, c'est ouvrir un centre médical et commencer à soigner des gens jusqu'au jour où il en a tué pour que les gens se reconnaissent. Mais là, est-ce que vous comprenez comment dans un pays comme celui-ci où il y a des lois, quelqu'un peut se réveiller et faire un acte pareil? Mais ce qui est pire encore et regrettable, Monsieur Pierrot, chers auditeurs, nous avons saisi toutes les autorités que vous pouvez imaginer pour informer et alerter sur ces cas-là. On a été à la zone de santé de Lukunga. Si le médecin inspecteur de la zone de santé de Lukunga m'entend ou me suit ou ceux qui le connaissent, qu'ils aillent le lui dire. Parce que on a vérifié chez lui. Parce que c'est lui qui est chargé du contrôle.
Oui.
Cette structure n'a jamais existé. N'a jamais été enregistré auprès de la zone de santé. On a écrit au ministre provincial de la santé, secrétariat général de la santé, ministre national, tout le monde, inspecteur général de la santé. Vous savez quoi? Jusqu'à ce jour, personne de tout ce monde que je viens de citer n'a été posé la question. Ne nous a même appelé pour dire, mais comment on peut faire travailler ensemble pour dire quoi? Que nos auditeurs les sachent, que la population les sache, que ce n'est pas toute structure médicale où on a peint, on a écrit tous les services et qui fonctionne, qui reçoit des malades, qui a des médecins et des vrais médecins, qui a des autorisations
et ça s'est passé à Kinshasa, dans ce pays,
mais
la capitale.
Y a un problème,
que dirions-nous de l'intérieur
du pays? Et ça, c'est encore plus grave. Mais il y a la responsabilité de la population elle-même, parce que vous l'avez dit. Les gens, ils savaient que cet homme qui a ouvert un SAT n'est pas un médecin, il était évadé de la prison, ils les ont laissés. C'est quand il y a un problème qui commence à dire
ils n'ont jamais su, monsieur Pierrot.
Mais ça, c'est
ils n'ont jamais su.
De deux.
Et ils sont pas censés le savoir. L'État est
l'inspection,
censé veiller sur ça et garantir la sécurité.
De la santé. Je crois que l'inspection médicale de la santé a des structures, même au niveau de la zone de santé. Et même la police.
Imaginez-vous quand vous montrez.
Exactement, c'est là où je m'inquiète. Je me dis, quand je vois sur mon avenue qu'il y a une clinique, quelqu'un a écrit, même la police a la responsabilité de dire, mais voilà, on peut s'approcher pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Cela veut dire qu'il n'y a personne qui sent sa responsabilité sur ce qui est en train de se passer. Et c'est ça
le
drame.
C'est pourquoi j'interpelle les populations. J'interpelle les citoyens congolais dans le rôle qu'ils doivent jouer et comprendre que on ne va pas attendre tout de l'État, tout de ces autorités-là qui apparemment ne perçoivent pas ou ne vivent pas ce que nous vivons. Font comme si ils sont en dehors de notre planète, des réalités que nous vivons. C'est pourquoi nous devons dire nous nous prenons en charge, avec que nous allons vers eux et dire voilà ce qui se passe. Nous devons améliorer les choses. C'est inacceptable. Aller vers eux et dire, c'est ça le plaidoyer. Donc nous voyons l'État et nous leur disons comment dans un pays normal qui a des lois, comment des centres médicaux peuvent fonctionner sans autorisation? Comment des boutiques peuvent nous vendre des médicaments périmés, expirés, des médicaments sans réactifs, sous-dosés, surdosés, qui nous tuent? Et vous les voyez tous les jours et vous restez tranquille. Est-ce que c'est normal?
Mais alors,
ce n'est même pas normal pour nous qui restons inactifs. C'est anormal.
Et votre responsabilité dans cette campagne, en quoi consiste votre message auprès des prestataires de services? Qu'est-ce que vous leur dites exactement?
Notre message aux prestataires de services, c'est que la sécurité des patients donc doit être au centre de toutes leurs actions. Nous savons qu'ils ont des problèmes financiers. Ils ont des problèmes sociaux parce qu'il est aussi difficile de se concentrer sur un patient pendant qu'on ne sait pas comment son fils qui est malade va être soigné. Ou son enfant qui est à l'école, comment il va payer les frais de scolarité pour ceux qui sont peut-être dans les écoles privées. Comme on a la gratuité, on peut dire qu'ils peuvent être tranquilles. Mais la sécurité des patients doit être au centre de tout ça. Parce que l'accès aux soins de santé de qualité. Quand on dit accès aux soins de santé de qualité, Monsieur Pierrot, chers auditeurs, on ne dit pas que vous avez accès aux soins de santé de qualité selon que votre poche est pleine ou votre compte en banque est pleine ou selon que vous êtes fils du premier ministre ou du ministre ou du président de la République ou d'un directeur général ou d'un président du conseil d'administration ou d'un député ou vous êtes fille de la présidente de l'Assemblée nationale ou fils du président du Sénat. On ne dit pas que vous avez droit aux soins de santé de qualité parce que vous êtes ministre, parce que vous êtes député, parce que vous êtes secrétaire général ou n'importe quelle autre autorité que vous pouvez citer. Non, on dit accès aux soins de santé de qualité parce que vous êtes citoyen congolais et que vous en avez le droit et que l'article 47... pour ne pas citer la Déclaration universelle des droits de l'homme, les pactes africains des droits de l'homme et des peuples et tous les autres instruments juridiques nationaux et internationaux, la Constitution de la République, à son article 47, garantit l'accès aux soins de santé et dit que l'État doit mettre en place des mécanismes pour garantir cet accès aux soins de santé de qualité. Cela ne doit pas dépendre de ce que vous avez dans votre poche.
Voilà. Alors, Kabengele est à Lubumbashi. Eric, merci. Eric était avec nous tout à l'heure. Kabengele, vous êtes à Lubumbashi. La question de la sécurité des patients au centre de cette campagne menée par l'Association pour la défense des droits des patients. Vous êtes avec nous de Lubumbashi, Kabengele. Bonjour.
Bonjour à tous. C'est Kalenga. Kalenga à Lubumbashi.
Ah, c'est Kalenga. Okay. On vous écoute,
Oui, je voudrais d'abord faire mon témoignage et puis poser deux petites questions à notre invité.
Ok.
Bon, moi je suis diabétique, ça fait à peu près 20 ans. J'ai été diagnostiqué, c'est-à-dire la vision. À un certain moment, la vision a commencé à poser problème. Je suis allé me faire consulter dans une très grande formation de la place ici, là où il y a des spécialistes, des professeurs d'université. Ils m'ont prescrit pour, disons, pour protéger la petite vision qui m'est restée, ils m'ont prescrit 3 séances de laser. Bon, j'ai suivi ces 3 séances de laser, mais à la toute juste après la dernière séance, la 3e séance, immédiatement après, mon œil là qui me permettait de voir a fermé. Juste après, immédiatement après la séance de laser là, l'œil a fermé. Maintenant, ça fait 5 ans que je suis cloué au sol. Je ne vois plus, je suis cloué au sol. Maintenant, la question que je voudrais poser à notre invité, est-ce que puis-je me plaindre pour avoir réparation et où le faire? C'est-à-dire, où est-ce que je peux aller me plaindre? Puisque pour moi, c'est le laser là qu'on m'a foutu dans les yeux qui m'ont complètement bousillé la vision. Où est-ce que je peux me plaindre? Est-ce que je peux me plaindre d'abord? Et où le faire? Voilà un peu mon étonnement.
Merci beaucoup. On est vraiment désolé hein, pour ce qui vous est arrivé. Et c'est un témoignage très très touchant. Je crois qu'après l'émission, il y a moyen d'entrer en contact avec notre invité parce que c'est le domaine dans lequel elle évolue. Je crois peut-être qu'il y en a encore de centaines de personnes avec autant de témoignages.
Très rapidement, autant rapidement, je peux dire que oui, il y a possibilité de se plaindre. D'ailleurs, okay. C'est de son droit. Il doit se plaindre. Parce que aujourd'hui, je suis désolée de ce qui vous est arrivé et tous nos encouragements. Aujourd'hui, ce qui vous est arrivé, considérez d'ailleurs, parce que c'est la réalité, parce que c'est que on ne peut pas étaler ici les cas que nous avons au niveau des parquets et des tribunaux. Certains vont être fixés bientôt. On vous appellera pour la médiatisation. Soyez rassuré convaincu qu'il y a des personnes après vous qui ont connu la même chose. Et tant que ils ne dénoncent pas et qu'ils ne se plaignent pas pour que le coupable puisse répondre de ses actes sur base de dispositions légales, ça ne changera pas. Parce que j'ai toujours dit, Monsieur Pierrot, chers auditeurs, et non, les prestataires de soins qui nous suivent, à eux aussi de comprendre ce que je vais dire. Personne ne peut quitter chez lui, médecin, infirmier, laborantin ou que pour dire que je vais mal faire mon travail.
Non.
Je vais tuer quelqu'un aujourd'hui. Je vais mal diagnostiquer. Je vais prescrire un faux produit ou je vais faire une mauvaise prescription. Je considère que personne ne peut le faire. Personne. Mais tant que ces prestataires-là seront à l'abri de toute poursuite, exerceront dans des conditions où ils savent que même si ils arrivaient à commettre quelques gaffes, fautes ou erreurs, ils ne seront pas interpellés, ils n'y mettront pas toute leur attention, toute leur énergie pour bien faire. Il y a un adage qui dit que la crainte du gendarme, c'est le commencement de la sagesse. Si il sait, prestataire de soins, je parle médecin, infirmier, laborante, tous les radiologues et tout le monde, c'est que si je fais mal mon travail, je vais être appelé à répondre. Je peux engager la responsabilité civile de l'hôpital, de la clinique, qui va payer des millions pour avoir fait perdre la vue à un père de famille, pour avoir fait perdre la vie. Là, je parle de la vue pour ce qui concerne notre auditeur. Je vais répondre, je vais engager ma responsabilité pénale si je pose des actes personnellement qui peuvent porter atteinte à la vie du patient. Tant que s'il sait que il peut répondre de ces faits-là, il adoptera une attitude responsable. Et c'est ça qui manque. Il y a d'une part l'État qui avec notre système qui laisse faire tout, n'importe quoi, ne sécurise pas les patients et d'autre part, la population ou les patients eux-mêmes qui ne sont pas informés, qui, au regard aussi de l'accès à notre justice qui est aussi compliqué, se fatigue et dit, je ne sais pas, même si je fais, on va commencer à me demander d'argent, on va commencer à me faire marcher,
il se résigne,
et entre-temps, les autres vont connaître la même chose.
C'est la volonté de Dieu,
tout ce que vous pouvez imaginer.
Voilà. Alors on va écouter, Joseph, vous êtes avec nous de Lubumbashi, bonjour.
Pierrot et la Meji, mon très cher ami journaliste aguerri. Bonjour à ton invité aussi, Madame Elodie.
Bonjour.
On vous écoute, Joseph.
Si on allait de témoignage en témoignage, ça sera triste. Il y a une semaine, nous venons d'enterrer une grande sœur d'un ami pour une césarienne. Vous pouvez vous imaginer. Hein, pour une césarienne, s'il vous plaît. Et on a perdu un être très cher. C'est douloureux. Un autre témoignage. Une sœur va dans une structure médicale très, très appréciée ici à Lubumbashi pour un checking. Elle était enceinte, mais arrivée là-bas avec une grossesse qui ne dérangeait pas la maman qui portait l'enfant. Le médecin va obliger à la dame, le médecin provoque une naissance. Et ça se termine mal, on perd une maman. Et quand madame dit que la sécurité commence, les hôpitaux, la sécurité dans les hôpitaux, ça doit commencer par le personnel soignant. Moi, je faisais les études de médecine, je les ai arrêtées. D'abord, dans les enseignants eux-mêmes qui nous donnaient cours, certains d'entre eux, ça nous étonnait, on prépare un futur médecin, mais qui est celui qui lui donne cours? C'était dans une extension d'une grande université du pays, j'étais le nom. C'est triste. Le monsieur qui t'a appelé à Funguru, mais dernièrement j'étais à Kolwezi. J'arrive à Funguru, mais quand tu regardes à Funguru, mais il n'y a pas une structure médicale très aguerri par rapport à la population et par rapport à toutes ces richesses que regorge Fungurume. Et maintenant, quand vous prenez de Kolwezi jusqu'à Lubumbashi, vous passez tous ces villages là-bas, il n'y a pas de structure de santé. Certes, nous mourons parce que on est des humains pécheurs, c'est le péché qui entraîne la mort, mais nous, la sécurité médicale ici chez nous... Moi, je me demande même pourquoi ce genre de sujets sont abordés à une grande chaîne de radio comme la vôtre, parce que l'État, il est absent, les médecins qu'on soigne, c'est... J'étudie dans une promotion avec un monsieur qui est refusé avec 29%. C'est son grand frère, parce que c'est un enseignant, il récupère ses messieurs. Aujourd'hui, il est médecin. Vous imaginez ce genre de médecins? Comment ils vont devenir...
Alors, mais Joseph, si nous aussi, au niveau de la radio, on s'était, on ne veut pas en parler, c'est que la situation va continuer. C'est ça aussi notre responsabilité, c'est votre responsabilité. Vous avez donné deux cas. Une dame qui est morte parce qu'elle voulait donner naissance après une césarienne. Un autre cas, vous avez donné. Vous avez parlé de Fungurume, Kolwezi, Lubumbashi. Alors, c'est le paradoxe, effectivement, avec toutes les richesses que possède la RDC et ces zones d'exploitation minière où il y a des sociétés qui pisent de l'or, des cassitérites et tout ce qu'on peut amener comme cobalt et tout ça, mais que ces entités, que ces villages n'aient pas des hôpitaux, alors que c'est là où on exploite les richesses minières. C'est aussi ça, c'est paradoxe, et c'est ça notre responsabilité exactement, Joseph, de pouvoir en parler. Merci beaucoup, Joseph. Jacques, vous êtes à Ouvira. Bonjour Jacques.
Bonjour Radio Kapi, merci pour vos émissions qui touchent des problèmes réels de notre temps. Mmh. Et avec cette réalité, je remercie aussi la sœur Elodie qui a touché une réalité qui gangrène, qui mène vraiment des vies à la fin sans raison, à tort vraiment. Bon, j'ai des préoccupations. Elle a touché un problème à rapport avec nos facultés de médecine. Parmi ces facultés, il y a ce que l'on considère être des bonnes facultés, des vraies facultés de médecine, mais qui aussi sont, qui posent aussi certains points, certaines questions, certains points qui mettent des points d'interrogation aussi. Sorte de médecin, on pourra produire avec les voies de corruption hein, qui sont vécues dans nos universités aujourd'hui et de points sexuellement transmissibles et de corruption sous toute corruption multiforme. Je me demande réellement, un médecin qui est produit dans ces sens-là, depuis l'agent 1 jusqu'à la dernière, la quatrième année de doctorat, ça serait quelle sorte de médecin? Il passe.
Mais vous rappellerez, Jacques, on a eu plusieurs émissions hein, quand le gouvernement du temps où le professeur Macha Komamba était ministre de l'enseignement supérieur universitaire, paix à son âme, on a eu 2-3 émissions avec lui quand on avait fermé les facultés de médecine dans certaines universités. On se rappelle encore comment il y a eu des soulèvements, même on a envoyé les gens dans la rue, on a vu même des députés qui ont réclamé la tête du feu Macha Komamba. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient qu'on ferme ces facultés de médecine. Chaque politicien voulait en avoir chez lui dans son village. C'est ça aussi le drame. Tout commence aussi par là. De quelle manière les gens sont formés? Non seulement le médecin, les infirmiers, le technicien de laboratoire partout. Voilà le problème réel qui se pose aujourd'hui. On va terminer avec vous, Alain David. Vous êtes à Guémena. Bonjour, Alain David.
Bonjour, bonjour. Je profite à cette occasion pour dire bonjour aussi à tous les auditeurs de la radio.
On vous écoute.
Donc, ouais. Et donc, pour moi, c'était constat un peu qui se passe ici à Guémena, dans la province de Sidoubangué, précisément dans ce chef-lieu. Ici, on a un problème sérieux. Le problème, c'est quoi? Nous avons l'hôpital général de la place, qui, peut-être par sa condition, et donc, ça qui ne permet pas aux autres de bien fréquenter cette structure sanitaire. Et les lits sont insuffisants. Et les conditions des installations hygiéniques et qu'on sort. Et donc, avec les gens, on quitte pour aller se faire soigner dans des privés. Et il y a même un médecin qui a ouvert un centre de santé privé qui, pour lui, ils ont fait une office dans les cas où vous verrez la majorité des enfants de médecins et les médecins et même leurs femmes, leurs familles se font soigner dans tel centre de santé. Je ne peux pas citer les noms, parce que c'est médiatisé.
Alors, ça veut dire que le problème, Alain David, le problème, c'est que les gens ne peuvent pas faire confiance à l'hôpital public. Maintenant, et les médecins qui travaillent à l'hôpital public, ainsi que leurs familles, ils vont se faire soigner chez leurs collègues médecins qui a ouvert un hôpital privé. C'est ça aussi le drame. On avait ce problème des hôpitaux publics que les gens ne fréquentent pas pour aller vers les privés. On estimait que chez les privés, il y a les soins de qualité, mais le problème aujourd'hui se pose encore dans les hôpitaux privés. On va en parler avec notre invité pour terminer. On va finir avec vous, hein. Simon, vous êtes à Matadi. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour. Simon, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute rapidement. On a un petit souci avec votre ligne. Oui. On vous écoute.
Oui, en fait, le peuple congolais moyen vit dans une sécurité sanitaire très totale. Parce que la politique publique de la santé n'est pas vraiment bien définie. Vous savez, d'ores et déjà, les médecins, au lieu d'appeler les malades patients, on l'appelle client. On l'appelle client parce qu'ils veulent l'argent. Il y a des gens qui meurent faute d'argent. Et puis la politique publique, de santé publique, est très mal définie. Vous voyez, il y a des boissons qui se vendent comme ça. Les boissons qui sont aphrodisiaques, qui incitent l'abido sexuel dans des gens. On les vend à côté de l'hôpital, à côté des écoles, et partout, et sous l'œil regardant des ministères de santé publique. Ces gens prennent la boisson comme ils veulent, comme si on n'a pas une politique de santé publique. Vous voyez les maladies, on les ramasse, l'environnement congolais. La politique de la santé publique ne s'y mêle pas. par l'environnement, alors qu'on devrait, il devrait voir tout ça. Regardez combien de gens souffrent de maladies en tant qu'en vie. Il n'est pas en bonne santé, mais on les voit se promener. Parce que dans la nature, la politique de santé publique, elle est désorganisée. Mm-hmm. Les médecins, ou sinon, les gens qui sont chargés pour la santé, pensent que c'est l'hôpital. C'est à l'hôpital qui devrait résoudre le problème.
Et là, d'ailleurs, selon ce que vous, quand vous parlez de la politique publique en matière de santé, Simon, il se pose un problème. Notre invité le disait tout à l'heure, vous avez le plan existe. Et quand on regarde les plans souvent qui sont élaborés en RDC, ce sont les meilleurs plans avec des experts qui ont travaillé des stratégies. Mais il y a un fossé entre la déclaration d'intention, avoir un plan sur papier et pouvoir le matérialiser sur terrain. C'est là un autre problème. Merci beaucoup aux auditeurs. Vous avez été nombreux. On revient à vous. Maître Elodie, on a suivi les uns et les autres cette campagne que vous avez lancée, parce que bien sûr c'est, elle nous a permis de pouvoir lancer ces débats. Est-ce qu'elle est temporelle ou vous estimez que c'est une affaire de tout le monde et de rester permanent pour en parler?
Oui, c'est une affaire de tout le monde. Elle va être continue, mais dans un premier temps, elle va jusqu'à une année, mm-hmm. avec des évaluations à mi-parcours qui seront faites. De ce qu'on on a pu faire comme amélioration, comme avancée, comme gain par rapport au plaidoyer. Et donc, voilà un peu par rapport mm-hmm. à cette campagne.
Et exactement, est-ce que vous allez vers les prestataires dans leurs établissements, là où ils sont pour les croiser? Est-ce que vous faites aussi des plaidoyers en faisant des réunions ou vous adressez des messages au pouvoir public? Comment pratiquement cela
se fait? Ça s'est passé inscrit mm-hmm. dans notre plan. Mm-hmm. C'est depuis seulement le 17 septembre oui. ici. On a déjà rencontré quelques acteurs clés. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on va voir le ministre provincial de la Santé mmh. dans le cadre de cette campagne. Ce que nous faisons ici,
exact.
Vous de nous recevoir, c'est aussi une des activités. On a été à beaucoup d'autres chaînes pour en parler. Et on va être dans les hôpitaux pour en parler, pour sensibiliser les prestataires de soins, les patients qui sont dans les hôpitaux, sur leurs droits et comment ils peuvent déclencher les mécanismes pour les revendiquer, pour se défendre, mais se protéger. Et comme on a beaucoup parlé de l'État, vous comprenez que tout le monde parmi tous les intervenants qui sont revenus sur des questions n'ont pas évité ou hésité de mettre en exergue la responsabilité de l'État dans ce qui est la situation de notre système de santé ou de notre situation mmh. sanitaire. Et voilà un peu, il y a cette question, cette problématique des facultés de médecine, et pour apaiser certains de nos intervenants, c'est une, comme j'ai dit, de nos, c'est un de nos piliers. C'est vraiment un aspect sur lesquels on va agir jusqu'à ce qu'on obtienne des résultats. Et on va les obtenir. Parce que je ne pense pas que ces morts qu'on enregistre tous les jours, que ces accidents médicaux mmh. qu'on enregistre tous les jours profitent à quelqu'un. À personne, je suppose. Et donc, on va tout faire
Merci.
Pour obtenir tout ce qu'on vient de dire ici, l'assainissement du secteur des médicaments.
Exactement. Et ça, également. C'est très important.
Et ça aussi. Donc, c'est les deux, comme je mm-hmm. disais. Il y a un élément important, si vous permettez.
Allez-y rapidement.
Maintenant
oui.
que nous parlons, maintenant parce qu'on a parlé de l'État, vous savez que le Centre national de transfusion sanguine est en rupture d'intra et des stocks pour l'approvisionnement en sang. En rupture, le Centre national. Et donc, si le ministre de Finances nous suit et tous ceux qui les connaissent, qu'il l'appelle pour qu'il débloque les fonds
nécessaires
pour approvisionner
les
centres nationaux de transfusion sanguine. Nous avons écrit au Premier ministre
pour que cela soit résolu en toute urgence.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Et d'ailleurs, on ne devait pas attendre qu'on écrive pour réclamer qu'on puisse ravitailler les centres nationaux de transfusion. Alors, c'est pas la dernière fois. On pourra encore se retrouver prochainement, Maître Elodie. Merci aux auditeurs, vous avez été nombreux. Nous poursuivons le débat sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs, mais ce magazine est sur www.radiocapi.net. Merci. Merci à Polydor Basunga qui était à la mise en onde et toute l'équipe de production de Paroles aux auditeurs. Au revoir.